Bonjour à tous, alors que la campagne présidentielle est déjà sur les rails, je vous propose une enquête sur l'autre campagne qui, elle, se joue en coulisses. Nombreux sont les hauts fonctionnaires qui se recasent en ce moment dans la finance, ce qui n'est pas sans conséquence sur le fonctionnement de l'État. On va voir ça avec vous, Benoît Colomba, bonjour.
Bonjour Jacques.
Et puis nous recevrons Maître Karel Canois, bonjour.
Bonjour.
Alors vous poursuivez Renault et Volkswagen dans l'affaire du Dieselgate, les voitures pollueuses. Et depuis une semaine, vous avez aussi Citroën dans votre collimateur.
France Inter. Secret d'info, Jacques Monin.
Monsieur le ministre de l'économie et des finances, il y a quelques jours, nous apprenions avec une grande stupéfaction que le directeur général du Trésor démissionnait de ses fonctions pour pantoufler dans un fonds d'investissement dirigé par un citoyen de la République de Chine. Le directeur général du Trésor n'est pas un fonctionnaire ordinaire. Il détient des secrets d'État.
Voilà, ça c'était Jacques Myard, le député Les Républicains, qui s'inquiète à l'Assemblée nationale de ce qu'un haut responsable du Trésor soit embauché dans le privé et utilise donc ses secrets et ses réseaux, c'est ce qu'on entend, pour servir d'autres intérêts que celui de l'État. Alors nous allons voir que ces passerelles entre le public et le privé, eh bien elles sont légion, et notamment en ce moment, en période de pré-présidentielle. Mais pour bien préciser les choses, Benoît Colomba, on va appeler un chat, hein. Cette pratique, on vient de l'entendre, ça s'appelle en fait pantoufler.
Oui, c'est le fait pour un haut fonctionnaire de passer du secteur public au secteur privé.
Et pantouflage, ça veut dire quoi précisément ?
Alors, à l'origine, c'est une expression utilisée par les polytechniciens dans le jargon de polytechnique. Il y a ceux qui choisissent la botte, c'est-à-dire le public, et puis ceux qui choisissent la pantoufle, le secteur privé.
Oui, ceux qui choisissent la pantoufle, ils sont de plus en plus nombreux.
Oui, ça concerne désormais 1 millier de fonctionnaires d'État par an. La liste est longue, très longue, comme les explique le cofondateur du site Pantoufle Watch, Frédéric Lemaire, qui suit à la trace tous ces pantouflages.
On a une dizaine d'exemples de conseillers de l'Élysée qui sont partis vers le secteur privé. Le dernier en date qu'on a, c'est Julien Pouget, donc conseiller économie de François Hollande, qui est parti travailler pour Total. On peut citer aussi l'exemple de David Kessler, qui est ancien conseiller culture et communication, qui est parti vers Orange Studio. Donc on voit que ça touche un nombre important de secteurs.
Voilà, et dans le domaine de la communication, on pourrait ajouter l'embauche récente du numéro 2 de l'ARCEP, l'autorité de régulation des télécoms, recruté par Google France.
Ouais, donc le pantouflage, ça concerne, on le voit, beaucoup de monde. Maintenant, les hauts fonctionnaires ne vont pas pantoufler n'importe où, Benoît. Il y a un milieu qu'ils affectionnent tout particulièrement, c'est celui de la finance.
Oui, on peut citer le cas du directeur général de l'Agence des participations de l'État, David Azema, recruté par l'une des plus grandes banques d'affaires américaines, Bank of America Merrill Lynch, ou encore le conseiller pour les affaires économiques de François Hollande, Jean-Jacques Barberis, à peine nommé, déjà recruté par une société de gestion d'actifs liée au Crédit Agricole et à la Société Générale.
Oui, on peut en citer d'autres, à droite comme à gauche.
Bien sûr, ce pantouflage bancaire est un phénomène structurel qui s'est accéléré ces dernières années. On peut encore citer le cas de Pierre Mariani, directeur de cabinet de Nicolas Sarkozy au budget, qui rejoint BNP Paribas avant de prendre la direction de la banque Dexia qui a fait naufrage en 2011.
Oui, c'est donc un phénomène, on le voit, qui s'est banalisé. Cela dit, ça marche aussi dans l'autre sens.
Effectivement, de plus en plus de hauts fonctionnaires partis dans le privé reviennent ensuite dans le public. C'est ce qu'on appelle le rétro-pantouflage. On parle également de portes tournantes pour qualifier ces allers-retours incessants entre public et privé.
Ouais, des portes tournantes ou des revolving doors, comme on dit en anglais. Alors on imagine des tourniquets qui fonctionneraient entre l'État et le secteur bancaire, c'est un peu ça.
Oui, l'un des cas les plus connus, c'est celui d'Emmanuel Macron qui a travaillé pour la banque Rothschild. Autre exemple, Nicolas Namias, il passe de la Banque Populaire Caisse d'Épargne au poste de conseiller du Premier ministre Jean-Marc Ayrault, puis il repart dans le privé à la banque Natixis.
Mais alors pourquoi faire ainsi des allers-retours ? Pourquoi ne pas rester dans un secteur et s'y tenir ?
Eh bien, il y a d'abord un contexte historique et économique, comme si servir l'État avait finalement changé de signification, analyse le sociologue Paul Lagnoy-Monnet.
Le rapport de force entre l'ordre économique et l'ordre politique a bougé, en faveur de l'ordre économique très clairement. Oui. Autrefois, en gros, vous pouviez décider de servir l'État parce que vous vouliez avoir le pouvoir, et après vous alliez dans le privé parce que vous vouliez avoir un peu d'argent. Aujourd'hui, vous pouvez avoir le beurre et l'argent du beurre dans un temps très réduit.
Oui, l'argent du beurre, mais au fait justement, en parlant d'argent du beurre, ça peut rapporter combien ?
Eh bien, votre salaire peut être multiplié par 10, voire plus.
Ah oui, si on va dans le privé quand même. Et c'est ce qui expliquerait donc que ces pantouflages, ils s'accélèrent ?
Oui, alors que normalement, un haut fonctionnaire est censé servir l'État pendant 10 ans, dont 4 ans juste après son diplôme, sous peine de rembourser la pantoufle, c'est-à-dire une partie du coût de ses études payée par l'État. Mais dans la pratique, les délais pour aller pantoufler sont de plus en plus courts, en tout cas pour certains corps de l'État, explique le sociologue François Denord.
Si on prend les énarques, par exemple, on va avoir 75% des inspecteurs des finances qui vont pantoufler au cours de leur carrière, dont un bon tiers de manière durable ou définitive. Et aussi, c'est important de le souligner, des cadres de Bercy. En fait, il y a même un bureau au sein de Bercy, qui s'appelle le MS3P, qui s'occupe de recenser les offres venues du privé à destination des cadres de Bercy qui pourraient trouver une place ailleurs.
Ah bon, Bercy s'occupe de trouver des débouchés à ses propres fonctionnaires ?
Absolument. Bon, cela dit, certains se débrouillent très bien tout seuls, comme l'ancien directeur du Trésor, Bruno Bézard, recruté par un fonds d'investissement franco-chinois, KT Capital.
Oui, c'est de lui dont parlait d'ailleurs Jacques Myard au tout début de l'émission.
C'est ça. Alors, Bruno Bézard n'a pas donné suite à notre demande d'interview, mais son entourage explique que ce n'est pas l'argent qui motive sa décision. Voilà comment KT Capital justifie ce recrutement dans ce communiqué lu par Philippe Reltien.
Le choix de Bruno Bézard de rejoindre KT Capital plutôt qu'une institution internationale, une grande banque ou une entreprise publique peut sembler inhabituel, mais nous estimons que cette prise de risque entrepreneuriale est tout à son honneur. En rejoignant KT Capital, Bruno Bézard continue à agir pour aider les entreprises à se développer à l'international et ainsi à créer de la croissance et des emplois en France.
Bruno Bézard crée donc de la croissance en pantouflant dans le privé, c'est ce qu'on entend, c'est pour la version en tout cas positive de l'affaire, parce qu'il peut y en avoir une autre, Benoît.
Bah, oui, ça pose quand même la question du mélange des genres, c'est ce que souligne l'économiste Gaël Giraud.
Tant que nous nagerons dans cette confusion-là, et que nous n'aurons pas compris que l'intérêt général ne se confond pas avec l'intérêt particulier d'une institution privée, ce sera très difficile d'en sortir. Donc il y aura une espèce d'auto-légitimation d'une partie de ces hauts fonctionnaires qui n'auront aucune difficulté personnelle, de conscience, morale, à pantoufler dans le privé en se disant finalement que je travaille pour la sphère publique ou pour la sphère privée, c'est la même chose puisque l'intérêt général dans ma tête se confond avec l'intérêt particulier.
Et précisons que le prédécesseur de Bruno Bézard au Trésor, Ramon Fernandez, a lui été recruté par Orange.
Oui, donc ces passerelles, on le voit, elles sont nombreuses. Alors question Benoît, est-ce que le fait d'avoir ça en tête, c'est-à-dire de se dire comme ça qu'on a un espoir d'aller pantoufler quand on est fonctionnaire, est-ce que ça ne peut pas déteindre sur votre façon de voir les choses ?
C'est effectivement une vraie question. Et pour l'ancien banquier, ex-secrétaire général de l'ONG Finance Watch, Christophe Nijdam, tout ça modifie évidemment les comportements.
Vous savez bien que si par la suite vous voulez, disons, éventuellement faire une carrière mieux rémunérée, vous allez le faire dans le secteur bancaire, vous n'allez pas le faire obligatoirement dans l'industrie. Et donc vous avez toujours un petit lutin qui est à l'arrière de votre cerveau. Ce petit lutin vous dit, écoutez, c'est peut-être pas très malin d'aller à l'encontre des désirs du secteur bancaire juste au cas où.
Oui, un petit lutin qui vous recommanderait donc d'être plutôt sympa avec les banques, c'est ce qu'on entend. Et Christophe Nijdam le pense d'autant plus que des banquiers, c'est vrai qu'on en retrouve pas mal au cœur même du pouvoir, c'est-à-dire à Bercy.
Oui, on l'a vu avec la nomination en juillet 2016 de Thierry Aulagnon, le directeur de cabinet du ministre des Finances, qui a fait toute sa carrière à la Société Générale.
Mais est-ce qu'il n'y a pas un risque de conflit d'intérêts ?
Bien sûr, puisque les finances sont en lien direct avec le secteur bancaire, les assurances, et qu'il y a notamment un dossier fiscal actuellement en cours concernant la Société Générale dans l'affaire Kerviel. Thierry Aulagnon n'a pas souhaité nous parler. De son côté, Michel Sapin assure, lui, avoir donné des consignes strictes pour éviter tout conflit d'intérêts avec interdiction de traiter certains dossiers.
Oui, ça c'est la décision donc qu'a prise Michel Sapin. Maintenant, plus généralement, tous ces pantouflages, ils ne sont pas contrôlés ?
Sur le papier, si. Une commission, la commission de déontologie de la fonction publique se prononce chaque année sur ces pantouflages. Les fonctionnaires ont l'interdiction pendant 3 ans d'aller travailler dans une entreprise avec laquelle ils ont un lien direct.
Et des avis négatifs, elle en a rendu cette commission ?
Très peu en fait, seulement 2% d'avis négatifs.
Et pourquoi ?
Nous avons posé la question au président de la commission de déontologie, le conseiller d'État Roland Paillet.
Nous, on applique la loi, c'est tout. C'est pas nous qui avons à apprécier pour des raisons morales, subjectives ou autres, si oui ou non il est bien ou pas bien qu'il aille dans une entreprise.
Il y a une marge d'appréciation quand même.
Il y a une marge d'appréciation, oui, en ce sens qu'il n'est pas toujours facile de se faire une opinion juste sur la part qu'a pu prendre un fonctionnaire dans une prise de décision concernant une entreprise. Des allées et venues sont non seulement possibles, mais a priori encouragées entre la fonction publique et l'exercice d'activités privées par le législateur. Si le législateur prend une orientation contraire, très bien, à ce moment-là, nous ferons ce que veut le législateur.
Oui, on respecte la loi, rien que la loi. Et la loi, on vient donc de nous l'expliquer, hein, en l'occurrence, elle est plutôt favorable au pantouflage.
Oui, sachant qu'en fait, hein, plus de 50% des autorisations de pantoufler sont assorties de conditions. Ah, par exemple, Bruno Bézard a obtenu le feu vert de la commission à condition de ne pas avoir de contact avec la direction du Trésor.
Et comment être sûr qu'il respecte bien cette règle ?
Écoutez là-dessus la réponse du président de la commission de déontologie.
Nous ne sommes pas chargés de faire la police des réserves que nous appliquons, ça il appartient à l'administration de le faire, mais d'une façon générale, nous pensons que la formulation de ces réserves, et nous avons la faiblesse de croire qu'elles ont une portée, que les personnes qui les reçoivent ne s'assient pas dessus. Si elles sont prises, il peut en résulter pour elles des conséquences très importantes.
En d'autres termes, on fait confiance à l'esprit civique de chacun, hein, c'est ce que j'entends. Maintenant, le revers de cette façon de voir les choses, Benoît, c'est que ça permet aussi, parfois, de s'arranger avec les règles.
Et on l'a bien vu hein, dans l'affaire Pérol, en 2009, François Pérol, hein, ex-conseiller de Nicolas Sarkozy à l'Élysée, qui accompagne la fusion de l'entité Banque Populaire Caisse d'Épargne, avant d'en prendre ensuite la direction. Dans ce cas, la commission de déontologie a été tout simplement contournée. Poursuivi pour prise illégale d'intérêt, François Pérol a été relaxé en première instance. Son procès en appel doit se tenir le mois prochain.
Secret d'info sur France Inter.
Bien, on a vu que les frontières entre la haute fonction publique et le milieu bancaire sont devenues de plus en plus poreuses, que les allers-retours entre ces deux mondes sont maintenant fréquents. Alors voyons maintenant quelles sont les conséquences de ces pantouflages. Et pour illustrer ça, Benoît Colomba, on va s'arrêter un instant sur une personnalité qui est assez emblématique. Je veux parler de Jean-Pierre Jouyet, l'actuel secrétaire général de l'Élysée.
Oui, ancien inspecteur des finances, il incarne parfaitement ces allers-retours entre l'État et la banque, rappelle la journaliste du site Basta, Agnès Rousseau.
Jean-Pierre Jouyet est un parcours assez emblématique puisqu'il a été directeur adjoint du cabinet de Lionel Jospin quand celui-ci était Premier ministre et ensuite il a été au service de la droite puisqu'il est devenu secrétaire d'État dans le gouvernement de François Fillon. Il a aussi été directeur du Trésor, donc un poste très stratégique en France et il a fait des allers-retours avec les banques puisqu'il a été pendant quelques années dirigeant de Barclays France et ça ne l'a pas empêché d'être quasiment immédiatement d'être nommé président de l'autorité des marchés financiers, donc le gendarme de la bourse. Donc on peut quand même se poser des questions en termes de conflits d'intérêts. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, quelqu'un qui a fait des allers-retours entre le secteur privé et le secteur public, qui vient de travailler dans le secteur bancaire, peut être nommé dans l'instance de régulation du secteur bancaire ?
Oui, alors ce qui est sous-entendu là, Benoît, c'est que cette proximité d'un haut fonctionnaire avec le milieu bancaire, elle pourrait avoir une influence sur les politiques de régulation bancaire.
Oui, on l'a bien vu, hein, avec la loi dite de séparation bancaire en juillet 2013, qui reste très timide hein, et ne sépare pas réellement les activités spéculatives des banques. Pas besoin d'aller chercher très loin pour comprendre ce qui s'est passé, estime Thierry Philippona, directeur du think tank Institut Friedland et ancien responsable de Finance Watch.
Cette loi a été adoptée parce que les gens qui étaient au pouvoir dans les grandes institutions financières ont convaincu ceux qui avaient le pouvoir politique qu'il fallait in fine faire une loi qui était une apparence de réforme mais qui dans la réalité ne changeait pas grand-chose à la pratique.
Et on peut également noter que l'actuelle directrice générale de la Fédération bancaire française est passée par plusieurs cabinets ministériels. Le lobby bancaire connaît donc bien hein, les rouages de l'État.
Oui, cette question de la proximité entre les banques et l'État, bien, elle est maintenant récurrente et elle s'est d'ailleurs encore posée récemment à la Banque de France.
Et avec la nomination controversée du gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau, en septembre 2015. Il a été directeur de cabinet de Dominique Strauss-Kahn à Bercy, puis directeur délégué de BNP Paribas, pas vraiment le meilleur choix pour la Banque de France selon Jézabel Coupé-Soubéran, auteur du livre Blabla Banque.
Ça pose problème parce que lorsque vous êtes complètement imprégné des valeurs du secteur bancaire et financier et que vous vous retrouvez ensuite dans une instance, dans une institution telle que la Banque de France, qui est impliquée, si vous voulez, en matière de régulation financière, quelle voix est portée ? C'est nécessairement une voix qui est influencée par la culture acquise dans le secteur bancaire et financier. Il sera beaucoup plus enclin à déréguler qu'à réguler.
Ouais, un gouverneur de la Banque de France qui serait imprégné des valeurs du secteur bancaire, hein, c'est ce qu'on entend. Et que répond à ça Villeroy de Gallo?
Alors il n'a pas souhaité nous répondre, mais voilà ce qu'il disait devant la Commission des Finances de l'Assemblée nationale le 29 septembre 2015.
J'ai lu parfois que je risquais d'être prisonnier de la finance si j'étais nommé. C'est extrêmement mal me connaître. J'ai mes limites, comme chacun. Mais je suis un homme libre et je suis un homme droit. Et donc je déciderai en fonction seulement de ce que je crois être bon pour notre pays et son économie.
Je suis un homme libre et indépendant, hein, répond le gouverneur de la Banque de France. Il oppose donc son intégrité aux reproches qu'on pourrait lui faire. Maintenant, est-ce que c'est vraiment le sujet en l'occurrence?
En fait, non, ce n'est pas une question de personne, c'est plutôt une question de principe, analyse l'ancien commissaire contrôleur des assurances et fin connaisseur du système bancaire Michel Krinetz.
Indépendant, qu'est-ce que ça veut dire? Évidemment qu'il est indépendant puisqu'il pense la même chose que les autres. Pourquoi voulez-vous qu'il dépende de quelqu'un? Il n'est pas payé en sous-main par la BNP. Il n'y a pas besoin de ça. Il pense la même chose que les dirigeants des banques et que les dirigeants du Trésor et que le ministre des Finances. Donc il peut être parfaitement indépendant. Il considère qu'il est là pour favoriser les champions nationaux. Que ce qui est bon pour la BNP ou pour la Société Générale est bon pour la France, point barre.
Peu importe la quantité, profitez-en.
Ramassez votre monnaie. Plus de profit, mais qui en profite? Cours après le trophée, mais l'être humain s'atrophie. Toujours plus, résume bien sa pensée. L'homme ne pense qu'à brasser, c'est quand trop n'est pas assez.
Alors mettez-vous bien ça dans le crâne.
D'un clic sur votre mobile, vous ajustez le plafond de votre carte. BNP Paribas, la banque d'un monde qui change.
Secret d'info sur France Inter.
Alors, on a vu donc comment le pantouflage bancaire s'est banalisé en France, comment il pèse désormais sur la régulation de la finance, ou plutôt sur la faiblesse des régulations mises en place. Maintenant, regardons ce qui se passe à un autre niveau, c'est-à-dire à l'échelle européenne, parce que là aussi, Benoît Colomba, on est un peu les champions des portes tournantes.
Oui, et on a eu récemment un exemple assez spectaculaire avec le recrutement de l'ancien président de la Commission européenne, Manuel Barroso, par la banque Goldman Sachs. Et c'est pas un hasard, hein, explique l'un des meilleurs spécialistes de Goldman Sachs, Marc Roche.
Ils ont besoin de renseignements et d'informations confidentielles que seul Barroso peut obtenir parce qu'il connaît les gens. Et quand vous connaissez quelqu'un, c'est la nature humaine, eh bien, on parle. L'information vaut de l'or et Goldman Sachs est prêt à payer à M. Barroso le prix qu'il faut pour obtenir ces informations.
L'information vaut de l'or. Bon, cela dit, ce recrutement, Benoît, il a quand même fait beaucoup de vagues à Bruxelles.
Ah oui, une pétition lancée par des fonctionnaires européens a même recueilli plus de 150 000 signatures. Écoutez l'un d'entre eux, il reste anonyme car il a normalement un devoir de réserve.
Ce président qui a été élu par le Parlement européen deux fois, pour lequel on a bossé pendant 8 années, annonce qu'il rejoint la plus grande banque d'investissement au monde, qui a aidé la Grèce à maquiller ses comptes, qui a spéculé sur ses malversations et qui a été aussi responsable de la crise des subprimes aux États-Unis et toutes les conséquences qu'on connaît en Europe. Un gros choc, vraiment un choc, un sentiment de trahison.
On entend bien la colère de ce fonctionnaire européen. Maintenant, tout ça n'est peut-être pas très moral, Benoît, mais pour autant c'est légal.
Oui, en tout cas, selon les règles de l'Union européenne, les commissaires européens doivent respecter un délai de 18 mois avant d'aller pantoufler dans le privé, et c'est ce qu'a fait Manuel Barroso. Cela dit, on a appris cette semaine qu'une enquête a été ouverte par la médiatrice européenne sur le pantouflage de Barroso. Alors, elle n'a pas de pouvoir de sanction, mais elle peut mener des investigation et faire des propositions de réforme.
Ouais, suivre, donc ça c'est pour le cas de Manuel Barroso. Maintenant, il y a un autre personnage très important lui aussi au niveau européen qui fait également l'objet d'une enquête.
Oui, le président de la Banque Centrale Européenne, Mario Draghi. L'enquête de la médiatrice porte sur ses liens avec le groupe des 30, un cercle de banquiers et de financiers. Draghi, lui aussi, un ancien de Goldman Sachs, tout comme Peter Sutherland, un ex-commissaire à la concurrence, devenu président de Goldman Sachs dans les années 2000. Des cibles parfaites, résume le journaliste Marc Roche.
Goldman Sachs cible uniquement là où est le vrai pouvoir. Et le vrai pouvoir aujourd'hui, en Europe, mais en général dans le monde entier, ce sont les régulateurs, les eurocrates, ce sont les gouverneurs de banques centrales.
Et cibler les régulateurs, les eurocrates et les banques centrales, bah c'est effectivement ce qu'on fait en permanence à Bruxelles, hein, Benoît, et ça s'appelle tout simplement le lobbying.
Oui, 15 000 lobbyistes sont à l'œuvre et des commissaires européens sont régulièrement recrutés par des entreprises avec lesquelles ils sont en contact. Un pantouflage européen suivi de très près par Martin Pigeon de l'ONG Europe Corporate Observatory.
On les appelle les ouvreurs de porte, en fait. C'est-à-dire que ce sont des gens à qui il est très difficile de refuser un rendez-vous, concrètement, ne serait-ce que parce que les personnes qu'ils ciblent sont leurs anciens subordonnés. Nous en avons même un exemple très parlant avec un cas de 2009, l'ancien commissaire au marché intérieur qui était irlandais et qui a été engagé par l'entreprise de transport aérien Ryanair. Ce qu'il va faire, c'est deux choses. Conseiller la direction de Ryanair sur ses relations avec les institutions européennes et, en plus de ça, organiser jusqu'à deux réunions par an avec ses anciens collègues de la Commission pour le compte de la direction de Ryanair.
Ouais, donc, il essaie d'influencer la politique européenne au profit de Ryanair, c'est ce qu'on entend. Mais il ne fait pas que ça, Benoît, parce qu'on a là un cas assez intéressant qui nous montre qu'en matière de lobbying, bah, on peut aussi cumuler les fonctions.
Ben oui, parce que Charlie McCreevy, c'est son nom, hein, a été l'un des principaux responsables également de la régulation bancaire au sein de la première commission Barroso. Puis, tout en étant rémunéré par Ryanair, il a rejoint le conseil d'administration d'une banque londonienne.
Ouais, donc, les portes tournantes au niveau européen, c'est aussi apparemment une affaire qui marche. Maintenant, est-ce qu'on a une idée des chiffres précis sur ce que ça représente?
Eh bien, on commence à en avoir une idée, hein, notamment grâce à un rapport de l'ONG Transparency International qui a passé au crible le parcours des anciens députés et des commissaires européens. Le résultat est impressionnant, hein. 30% de parlementaires sont devenus lobbyistes, plus de 50% des anciens commissaires européens, avec souvent un conflit d'intérêts évident, souligne le porte-parole de Transparency à Bruxelles, Daniel Freund.
On a vraiment vu les cas individuels de gens qui, au bout de quelques semaines seulement, après avoir quitté leur fonction, ont intégré soit des agences de lobbying à Bruxelles ou comme l'ancienne présidente de la Commission des affaires financières et économiques qui a rejoint la bourse londonienne au bout de quelques semaines. Donc ici, on a des personnes qui, pendant des années, ont réglementé le secteur financier, qui étaient en charge, si vous voulez, de trouver la réponse européenne à la crise financière et qui, quelques jours après avoir quitter la fonction publique, vendent leur expérience, leur réseau qu'ils ont pu construire pendant des années à Bruxelles pour l'intérêt des structures privées.
Donc on retrouve au niveau européen ce qu'on a constaté en France, hein, et les mêmes causes produisant les mêmes effets, eh bien cela freine, là aussi, toute velléité de réguler la finance à Bruxelles.
Oui, on l'a bien vu, hein, au moment où le commissaire européen Michel Barnier a tenté d'imposer des règles plus strictes pour les activités à risque des banques, là il s'est heurté à un mur. Autre exemple, après la crise financière, le président de la Commission européenne, Manuel Barroso, encore lui, fait appel à un groupe d'experts pour rendre un rapport sur la régulation financière. Sauf que ces experts sont pour la plupart liés aux banques, avec au premier rang l'ancien gouverneur de la Banque de France, Jacques Delarosière, ex-conseiller de BNP Paribas, qui ne voit rien à redire à ça.
Monsieur Barroso me dit de me mettre au travail, ce que j'ai fait. Mais je l'ai fait vraiment avec la considération de l'intérêt public. J'ai pas regardé si c'était intéressant pour BNP. Cette idée ne m'aurait même pas effleuré.
Et là, nous faisons cette interview dans un bureau de BNP Paribas.
Oui, parce que il me le laisse. C'est un avantage modeste, puisque c'est un tout petit bureau, mais il me le laisse en contrepartie de quelque chose qu'il considère comme important, qui est mon avis sur l'évolution du monde international.
Oui, un avis qui vaut bien un bureau, même petit. Bon, cela dit, tout le monde n'a pas la même vision des choses et certains, y compris dans le monde de la finance, mettent aujourd'hui en garde justement contre cette mainmise de la finance sur les élites au pouvoir.
Oui, c'est le cas de l'ancien banquier ex-responsable de l'autorité des marchés financiers Jean-Michel Nolot qui vient de publier un livre, Éviter l'effondrement, un livre dans lequel il appelle à un sursaut du pouvoir politique.
Il me paraît très important de rétablir la primauté du politique. Si les dirigeants politiques ne font pas cet effort de comprendre ce que c'est que la finance, comment elle marche, pourquoi on parle d'une hypertrophie de la finance par rapport à l'économie réelle, eh bien, ils laissent la place aux banquiers centraux et aux banquiers pour faire la politique. Ils ne pourront pas se défaire de leurs responsabilités lorsque la prochaine crise arrivera.
Voilà pour la mise en garde donc de Jean-Michel Nolot. Maintenant, si on élargit la focale, Benoît, si on regarde par exemple ce qui se passe aux États-Unis, on ne peut pas dire que cette vision-là est vraiment le vent en poupe.
Bien au contraire, une demi-douzaine d'anciens membres de Goldman Sachs se retrouvent désormais à des postes clés de l'administration de Trump. Le président américain qui a déjà annulé toute une série de régulations bancaires. Les portes tournantes sont donc bien désormais dans toutes les têtes.
Merci Benoît Colomba, merci pour cette enquête. Une enquête que vous pouvez réécouter, que vous pouvez podcaster sur franceinter.fr ou bien sur l'appli France Inter. Et puis, comme chaque semaine, vous pouvez aussi nous faire part de vos commentaires sur la page Facebook de Secrets d'Info. Allez, dans un instant, tout autre chose, on va voir où en est le Dieselgate, le scandale Volkswagen qui s'est donc désormais étendu à Renault, à Citroën et à Fiat. You've been kept down. You've been pushed around. You've been lied to. You've been fed truth. Who's making your decision? Where's the Revolution? C'est un titre extrait du 14e album des Dépêche Mode qui doit sortir d'ailleurs très rapidement, enfin en mars prochain.
France Inter. Secret d'info. Jacques Monin.
Alors nous recevons maintenant Frédéric Carrel-Canois. Bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes avocat, vous êtes partie civile dans l'affaire des voitures pollueuses, autrement dit ce qu'on a appelé le scandale Volkswagen à l'origine, mais qui est devenu maintenant aussi le scandale Renault. Et on va le voir PSA, parce que la semaine dernière, les services de la répression des fraudes ont transmis un rapport au parquet, service qui considère qu'il y a donc maintenant matière à poursuivre PSA, donc Peugeot Citroën. Est-ce que vous savez pourquoi ? Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi ?
Eh bien, on est à peu près dans le même cas de figure que Volkswagen, dans ce sens que même s'il n'y a pas un logiciel truqueur, il y a quand même des éléments, il y a eu des tests... de passé, il s'avère que les seuils ont été largement dépassés. On parle pour certains de 10 fois les normes que la Commission européenne a mis en place. Et là-dessus, il y a effectivement, il y a un rapport de la Direction générale répression des fraudes, qui indique clairement que non seulement il y a un doute sur le respect du contrôle, c'est-à-dire il y a eu peut-être obstruction sur le contrôle, mais on sait déjà que les seuils ont été largement dépassés en matière de pollution.
Et ce sera la justice de toute façon d'établir les raisons de ce décalage, on va dire, entre ce qu'on mesure et ce qu'on annonce. Hein. Cela dit, il faut préciser, ça concerne un véhicule, hein, c'est pas tout Citroën qui est
pour
en
le
cause.
Moment. Le problème dans cette affaire, est-ce que les contrôles...
C'est la Cactus bleue HDI 100, pour être très clair.
Oui, aujourd'hui on dit ça, mais est-ce que les tests ont été faits pour tous les véhicules Peugeot, Citroën, etc. Je veux dire, là, pour le moment, c'est un véhicule, mais moi, je demanderais des mesures d'instruction supplémentaires, c'est-à-dire de vérifier tous les véhicules. Je signale quand même au passage, les décès au diesel par an en France, c'est de l'ordre de 7700. Donc c'est quand même deux fois les accidents de la route. Donc ça mérite quand même un approfondissement. On peut pas faire les choses à moitié. Donc si aujourd'hui, effectivement, il y a un véhicule dépinglé, le sérieux voudrait que tous les véhicules automobiles roulant en diesel
soient contrôlés, soient vérifiés.
Fassent
l'objet de vérification. Alors vous voulez que ça s'accélère, mais il semble quand même que les choses s'accélèrent. Parce que là, on a un dossier transmis donc au parquet qui va enquêter sur Citroën. Mais avant ça, il y a eu Renault. Et sur Renault aussi, il y a eu une information judiciaire d'ouverte très rapidement.
Alors non seulement il y a eu une information judiciaire d'ouvert très rapidement, il y a suite à une perquisition, et il y a eu aussi des aveux de la part de Carlos Ghosn en disant que le diesel était mort, hein, malgré les résultats exceptionnels. Donc le diesel a permis effectivement...
Est-ce que c'est un aveu ça, de dire que le diesel est mort, quand on veut vendre une voiture électrique?
Oui,
ça ne veut pas dire que pour autant on avoue qu'on fait ce qu'il faut pour polluer.
On fait de la publicité pour la voiture électrique chez Renault, et qu'on dit que le diesel, par la force des choses, les ventes ont baissé de plus de la moitié, et puis personne aujourd'hui ne voudra acheter un diesel avec le dieselgate.
Oui, mais reconnaître qu'une affaire a fait du tort au diesel, c'est une chose, c'est pas pour autant avouer qu'on a soi-même tenté de tricher.
Bien sûr, on va pas avouer comme les Allemands. Les Allemands, nous, on est plus subtils, on est Français. Les Allemands, bon, ils ont été contraints et forcés par les Américains, parce qu'il y a eu ce problème Volkswagen aux États-Unis. Donc c'est après avoir menti pendant plusieurs mois et années, quand vous êtes au pied du mur, bon, vous êtes obligé de dire que c'est vrai qu'en plus, il y a eu un logiciel. Chez les Français, c'est plus subtil. Mais est-ce qu'il y a un logiciel, pas de logiciel? On joue sur les mots. Le résultat est le même. C'est-à-dire, à partir du moment où les seuils sont dépassés, peu importe qu'il y ait un logiciel.
On s'est débrouillé pour faire croire qu'on polluait à un niveau X alors qu'on était au niveau Y.
Exactement.
Alors, il y a une enquête allemande qui a montré des choses assez extraordinaires. Elle a montré que sur certaines voitures, donc de Renault, lorsque la température baissait en dessous de 17 degrés, ou qu'elle montait au-dessus de 35 degrés, on avait un système de filtration qui était automatiquement désactivé. Or, tous les tests sont faits à 23 degrés.
Là, il y a bien tricherie, même si le cri haut et fort qu'il n'y a pas de tricherie. Et puis, il faut savoir les tests où ces tests sont faits. Si c'est des tests faits dans les garages des constructeurs automobiles, vous doutez bien qu'il y a quelques instructions données aux opérateurs pour arriver à ce schéma.
Alors là, si j'ai bien compris, dans le collimateur, il y a deux centres de contrôle, de l'Oise et de l'Essonne, qui eux, justement, contrôlaient à 23 degrés et qui ne voyaient rien. Et donc, on se pose la question de savoir, est-ce qu'ils étaient vraiment sincères dans le dispositif qu'ils avaient mis en place?
Moi, je pense que non, parce que s'il n'y avait qu'un seul véhicule, peut-être, mais là, compte tenu de la multiplicité du nombre de véhicules, à un moment donné, les techniciens sont quand même les opérateurs, ceux qui sont chargés des tests, sont quand même pas inconscients auprès d'eux, disons. Donc je crois qu'il y a une espèce de...
Oui, ou le bon sens voudrait qu'on fasse des tests dans plusieurs conditions pour vérifier les effets.
Et puis, il faut des organismes indépendants, qui n'aient pas de conflit d'intérêts, qui n'aient pas d'incointance, de relations commerciales, etc. C'est vraiment des organismes indépendants, chose qui n'est pas le cas, parce que dans la plainte, il y a la tromperie aggravée, mais également il y a obstruction au test. Il n'y a pas uniquement « oui, vous avez dépassé les seuils ».
Alors vous annoncez des chiffres assez hallucinants, vous dites qu'il pourrait y avoir des millions de plaignants potentiels et que ça pourrait coûter 90 milliards d'euros à Renault.
Exactement. Il suffit de prendre, de calculer il y a combien de véhicules Renault impactés. S'il y en a 3 millions, avec un prix, disons, d'achat, de vente d'un véhicule à 30 000, Mais c'est pas énorme. Quand vous voyez Volkswagen à 11 millions, on est à plus de 300 milliards. Et on voit bien, déjà, ils ont dépensé 22 milliards aux États-Unis pour calmer le jeu aux États-Unis. Mais pourquoi ils ont calmé le jeu? C'est que les Américains, eux, ils réclament que 5 000 $ par véhicule. Or, le problème, c'est pas de donner une indemnisation par véhicule. Le problème, c'est d'interdire la circulation de ces véhicules, mais radicalement, et puis de rembourser le véhicule, disons, à celui qui l'a acheté, aux utilisateurs, du fait de ces tromperies.
Oui, parce que là, vous faites référence à la procédure américaine, mais on a vu récemment qu'un tribunal allemand a, lui, effectivement, condamné Volkswagen à rembourser un client qui s'était senti floué par l'affaire.
Ça rejoint un peu ce que je disais lorsque j'ai déposé ma plainte dans le cadre du dossier Volkswagen. Moi, je demandais dès le départ le remboursement du véhicule. Donc là, je suis heureux qu'un tribunal allemand, donc c'est important, non seulement ils ont remboursé le véhicule, mais ils ont accordé des dommages à intérêt. C'est-à-dire, il n'y a pas que l'aspect, disons, financier, le préjudice financier, il y a l'aspect moral. J'ai encore reçu un courrier d'un plaignant contre Renault. Eux, ils sont ulcérés, c'est-à-dire d'avoir été trompés. Donc il y a une publicité aussi mensongère à ce niveau-là.
Alors la coupe est pleine parce qu'il y a également Fiat, on n'en a pas parlé, mais il y a une Jeep de Fiat, il y a des pick-up qui sont eux aussi soupçonnés d'avoir utilisé des logiciels truqueurs. Donc il y a 4 constructeurs aujourd'hui qui sont dans le collimateur.
Alors effectivement, dernièrement, il y a Fiat et Chrysler. Pour moi, c'est toute l'industrie automobile et tous les véhicules diesel. Mais je ne suis pas convaincu qu'on arrête du jour au lendemain la circulation des véhicules diesel.
Oui, cela dit, le problème de la justice, quand elle instruit, c'est de savoir si une faute a été commise ou pas, et ensuite de la sanctionner. Mais tout ça, donc, c'est à suivre. Hein. Merci Frédéric Carrel-Canois, merci d'avoir été notre invité. C'est la fin de Secret d'Info. Merci à Léa Dupouy-Hennequin qui m'a aidé à préparer cette émission. Merci à Christophe Imbert, notre réalisateur. À la technique, il y avait Florent Beauvallet et Maxime Ingrand. Et la programmation musicale était, elle, signée Jean-Baptiste Audibert. Dans quelques instants, vous avez rendez-vous, comme chaque samedi, avec Denis Chessou pour CO2 Mon Amour. Et je vous souhaite un excellent week-end à tous.